Business Club de France, le magazine des entreprises qui font bouger la France, Michel Picot sur BFM Business.
Bienvenue dans cette émission spéciale du Business Club de France aujourd'hui. En Grèce, à une grosse centaine de kilomètres au sud de Thessalonique, c'est ici que s'est retrouvé le gratin du e-commerce français, les Big Boss. L'événement s'appelle d'ailleurs comme ça. Les Big Boss, ce sont des directeurs e-commerce, marketing, innovation, directeurs clients de grandes marques comme SNCF, Interflora, Intermarché, je pourrais en citer beaucoup d'autres. Bref, ces Big Boss sont venus ici pour rencontrer des prestataires, pas les leurs, car l'objectif est justement de se faire rencontrer ce beau monde pour développer de nouveaux business. Voyage au cœur du e-commerce et de l'innovation. Et c'est pas tout, c'est dans le Business Club de France aujourd'hui. Et le créateur de cet événement est avec nous, Hervé Bloch. Bonjour.
Bonjour.
Alors, pour ce dixième opus, on va donner 2-3 chiffres juste pour qu'on comprenne mieux combien de participants côté Big Boss, côté prestataire.
275 Big Boss et 250 prestataires.
Alors, ils sont là pour nouer des contacts, faire du business à travers des datings, à travers des concours, à travers des dîners, à travers des soirées, à travers des fêtes. C'est ça le concept. Au bout de 10 éditions, vous mesurez ou vous avez mesuré le volume de business réalisé ici?
On a généré plus de 50 millions d'euros de volume d'affaires. Et alors, pourquoi ce chiffre? En fait, on vérifie les signatures. On veut que les Big Boss jouent le jeu, donc on leur demande à chaque fois qu'ils veulent revenir quel deal ils ont signé. On vérifie auprès des prestataires, et les prestataires eux-mêmes peuvent déclarer les opportunités. Donc ce chiffre, c'est pas un chiffre au hasard que je vous sors pour vous faire plaisir, c'est un chiffre issu de mon extranet avec les deals qui sont signés, qui sont vérifiés et validés entre les donneurs d'ordre que sont donc les Big Boss et les offreurs de solutions que sont les sponsors.
C'est-à-dire que ces sponsors, ces offreurs de solutions, vous vous engagez à un ROI finalement?
Alors, on s'engage pas parce que moi je m'engage à ce qu'il y ait des rendez-vous qualifiés et qu'ils puissent ensuite eux faire leur job et convertir ces leads qualifiés en deals signés. En revanche, je donne tous les moyens pour que des deals se fassent, pour que des gens se rencontrent et pour qu'une humanité sorte de tout ça.
Justement sur ce point, comment faire matcher ces rencontres? Comment vous faites? Il y a 570 personnes, hein, toutes catégories confondues, si j'ose dire. Comment vous faites pour qu'il y ait des affinités et que ces rencontres puissent aboutir à un business?
Alors, en amont de l'événement, on demande aux prestataires de déclarer un claim, une série de mots clés évocateurs de leur offre. Ensuite, on crée un formulaire avec l'ensemble des claims et les Big Boss doivent réagir sur ces claims, doivent définir leur marque d'intérêt, doivent déclarer leur projet qui correspondent à ces solutions. Et donc, j'ai un algorithme de matchmaking qui va calculer les plannings les plus affinitaires. Donc, on a donc le consentement du Big Boss. On laisse la possibilité au prestataire de supprimer ou de préférer certains rendez-vous. Et ensuite, l'algorithme va calculer à peu près une vingtaine de rendez-vous pour chacun des annonceurs et chacun des représentants côté prestataire. Et donc, on va organiser à peu près 5000 rendez-vous. 5000 rendez-vous. C'est équivalent de 6 mois de prospection pour des commerciaux classiques.
Et ces rencontres, vous les faites même jusque dans le placement dans l'avion. Bref, au-delà du business, Hervé Bloch, j'aimerais que l'on parle d'innovation, innovation technologique, innovation de service dans le e-commerce. On fait cette émission pratiquement chaque année depuis que les Big Boss existent. Et chaque année, je suis surpris des innovations qui arrivent. Je pensais pas qu'ils étaient aussi, je dirais, ils arrêtent pas, hein, ils arrêtent pas de créer. Qu'est-ce qui vous a, vous, marqué ces derniers temps dans le e-commerce?
Alors, effectivement, il y a des nouvelles technologies, on parle de chatbot, on parle d'intelligence artificielle, on parle de data, on parle de contenu. En fait, c'est ce qui va être pertinent, c'est le mélange de tout ça. On va pas se dire super, maintenant j'ai de la data pour en faire quoi? Super, j'ai des contenus personnalisés. On va les personnaliser, on va les envoyer à qui? Super, je peux calculer maintenant la meilleure adéquation, la meilleure segmentation. Donc en fait, c'est la convergence de l'ensemble de ces technologies qui prises individuellement sont des technologies, c'est des mathématiques, et qui finalement, mixées entre elles, peuvent vraiment donner des réponses concluantes et des retours pertinents.
Mais ça reste quand même qu'un mix de techno, de services. Je regardais par exemple, lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, par exemple, hein, mais on va en voir un autre dans un instant, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, la commande par la voix, est quelque chose d'assez nouveau. On a des petites boîtes, on va pas citer la marque, mais c'est assez nouveau. Donc on se dit en face, l'intelligence artificielle doit être particulièrement performante puisque je lui parle. Ça veut dire que derrière le consommateur final est un homme et une femme, donc quelqu'un d'humain. C'est ce mix-là, j'ai un peu le sentiment que l'intelligence artificielle est en train un peu de changer un petit peu les forces entre intelligence humaine et artificielle. Est-ce que je me trompe ? On remet l'homme, l'humain au cœur.
On remet l'humain et on remet l'émotion au cœur. Pourquoi ? Demain, on dira à cette machine, tiens, prends-moi un Paris-Londres. Tiens, prends-moi un Paris-New York. On dira pas, prends-moi un Paris-New York sur Air France. On dira, prends-moi un Paris-New York. Et c'est lui qui prendra le Paris-New York où il veut. Donc, si on a de l'émotion, si on a créé de l'intérêt auprès d'une marque, on va dire, tiens, prends-moi un Paris-Londres avec Air France. Donc, on va aussi changer les dogmes et les paradigmes. L'idée, c'est d'avoir en fait des marques qui sont assez fortes, qui créent une émotion particulière pour que son consommateur puisse lui être fidèle. Et même avec une nouvelle technologie, ou même si on demande à une machine d'aller chercher, de rajouter ce supplément d'âme et cette émotion supplémentaire. Donc, les mathématiques vont pousser l'émotion. Et c'est ce qu'on fait, nous, au Big Boss aussi, tous les jours.
La question que je me pose, c'est que il va y avoir un marketing sonore, on pourra dire ça, de la part des marques.
Alors, est-ce que tu sais, Michel, que quand tu ouvres ta bouteille de champagne, le son qui est créé, il est fabriqué par une société spécialisée dans le marketing sonore pour qu'il ait la sonorité la plus belle possible, parce que quel beau son, ce bouchon de champagne qui part. Donc, tu vois que ça existe et la technologie va aider tout ça, va donner encore plus de force, encore plus de possibilités.
La technologie au service de nos sens, et là, Hervé, vous allez me dire, qu'est-ce qu'il est fort en transition, puisqu'on vient de parler de l'ouïe et du son, j'aimerais qu'on parle de la vue cette fois-ci, puisque au Big Boss, vous nous avez présenté une innovation mondiale, vous allez nous en dire plus, et ensuite, on aura un témoignage d'une personne qui utilise, effectivement, on va le dire, ce sont des lunettes.
Alors effectivement, il existe des exosquelettes qui permettent à des gens en fauteuil roulant de marcher. On a identifié une technologie canadienne qui permet à des gens malvoyants, voire à des gens complètement aveugles, même si ce mot est pas très bien perçu hein, dans le langage courant, de retrouver la vue, de trouver la vue. Et donc on a voulu profiter de cette caisse de résonance, de réunir 500 dirigeants dans un week-end en Grèce, quand il fait beau, de donner du sens à la technologie, donner du sens à la vie et leur permettre d'être eux-mêmes dans une chaîne caritative qui va permettre de financer des paires de lunettes, parce que comme toute technologie ça coûte cher, hein, surtout qu'on est au balbutiement de ces technologies, et donc j'ai voulu contribuer, faire en sorte que mon événement, qui est un événement radicalement business, puisse aussi être caisse de résonance pour une chaîne caritative.
Alors, ces lunettes s'appellent Hystaride. On va pas rentrer dans la technologie, mais on va rentrer dans l'usage, puisque c'est ce qui nous intéresse. Et j'ai le plaisir d'accueillir Lionel. Bonjour Lionel.
Bonjour.
Vous faites de la radio dans le sud, hein?
Oui, c'est ça, tout à fait. On va éviter de citer le nom pour pas faire la publicité.
Non, y a pas de souci, Vous êtes non-voyant, c'est ça?
Je suis malvoyant. C'est-à-dire que je vois, j'aperçois. Je trouve des palliatifs pour pouvoir effectuer certaines tâches que d'autres personnes peuvent le faire normalement. Moi, il faut que je fasse d'autres choses avec le toucher, avec lui pour traverser la route, par exemple, savoir s'il y a une voiture qui arrive ou pas, plutôt puisque je la vois pas de loin. Donc, je fais tout ça différemment.
Aujourd'hui, vous portez ces lunettes. Qu'est-ce que ça a changé?
Alors, je vous avoue que l'expérience est un petit peu récente, puisque j'ai eu ces lunettes il y a maintenant 24 heures. Mais je vous avoue que ça m'a permis de me projeter, de voir un petit peu ce que je pouvais faire de différemment que ce que je fais aujourd'hui, notamment dans mon travail pour le, puisque tout aujourd'hui dans la radio tout est digital aussi, on travaille avec de l'informatique, donc plutôt que d'avoir des logiciels super lourds installés sur les postes informatiques, c'est voir l'écran de mon ordinateur directement devant mes yeux dans ces lunettes là, ou même autre chose aujourd'hui, pouvoir me projeter à lire et à découvrir des bandes dessinées, c'est bête, mais c'est comme ça. Des bandes dessinées que je n'ai pas eu accès dans mon enfance.
Depuis 24 heures, vous avez découvert certaines choses que vous ne soupçonnez pas. On a une splendide vue, par exemple, ici, en Grèce. C'est quelque chose qui vous a touché. Je vous ai vu tout à l'heure regarder, c'est pour ça que je me permets de vous le dire.
Si vous voulez, ça me permet, je l'apprécie encore plus. C'est-à-dire que je l'apercevais sans les lunettes. Mais avec les lunettes, je peux voir le nombre de bateaux, je peux voir la couleur des bateaux, je peux voir s'il y a du monde sur les bateaux, je peux voir si le bateau est en marche. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça, et je peux voir si la mer bouge, les clapotis, etc. Associer donc les sons que j'entends à mettre une image maintenant dessus.
Vos lunettes, c'est quoi? Ce sont, pardon, hein, mais ce sont des sortes de d'écrans qui grossissent, qui vous permettent de mieux visualiser. Comment ça se présente?
Alors, pour vulgariser la chose, c'est un petit peu l'image d'un casque réalité virtuelle que l'on met sur les yeux, où on bouge la tête, on peut bouger la tête, donc pour parcourir par exemple des documents, si on est en mode photo simple, ou effectivement avoir cette image qui est retranscrite directement. Ce sont des écrans qu'il y a à l'intérieur des lunettes, qui me permettent avec une télécommande de zoomer sur un panneau, sur une image, sur une photo, sur une personne, pour pouvoir voir encore plus de détails que ce que je ne voyais avant.
Vous pouvez zoomer, vous. Nous, on peut pas le faire. Enfin, c'est quand même formidable. C'est quand même formidable. On s'y adapte bien, facilement. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où on dit souvent ça des personnes malentendantes, le jour où on les entend très bien, il y a une sorte de surprise qui se produit parce qu'elles se sont habituées à travailler autrement et à vivre autrement. Comment vous l'appréhendez?
Après, aujourd'hui, personnellement, je suis plutôt fan des nouvelles technologies, donc ce genre de choses-là, je l'avais déjà un petit peu imaginé. On s'imagine avec un caméscope et une télévision à l'époque à zoomer sur des choses, mais c'est vrai que c'est un petit peu surprenant de découvrir d'autres choses et de voir de nouvelles choses qu'on ne pouvait pas voir à l'époque. Enfin, à l'époque. Voilà, qu'on ne pouvait pas voir. Il y a 48 heures de ça, voir un panneau pour embarquer dans son avion, c'était un peu plus compliqué, obligé d'avoir un appareillage, etc. Là, voilà, les lunettes sur le nez, les mains libres, on peut faire ce que l'on a à faire, simplement.
La société canadienne est en train de changer la vie de certainement de millions de personnes. Et là, on n'en est qu'au début. Alors, c'est pas un gros casque de réalité virtuelle, je le dis pour nos auditeurs, c'est quelque chose d'assez fin et ça passe bien. Donner du sens, Hervé, ça sera ma dernière question. C'est ce que vous avez voulu faire à travers ces lunettes. Ça veut dire, elles sont chères aujourd'hui, ces lunettes. Peut-être que demain, elles seront moins chères, évidemment, parce que c'est comme toute technologie. Mais là, la volonté était de donner un coup de projecteur sur une innovation utile, qui est quand même loin du e-commerce. Mais en même temps, ça fait partie de la vie. Comme on le disait tout à l'heure, à la fin, il y a toujours un consommateur, un être humain, quoi.
Moi, j'ai deux enfants. Et j'ai envie de leur raconter que papa, il fait pas que organiser des fêtes avec des clients. Papa, il peut aussi permettre être à l'origine de, effectivement, d'une chaîne humaine positive. Et c'est vrai que ces lunettes coûtent cher aujourd'hui, et on va essayer de contribuer pour que des personnes qui auraient besoin de ces lunettes mais n'ont pas les moyens de se les payer, on le voit offrir à travers un partenariat avec l'association Retina, qui est une association très importante. Impliqué dans le monde de la malvoyance en France et avec lequel on va agir tout au long de l'année, d'ailleurs tout au long des événements Big Boss, pour faire croître et motiver et promouvoir cette initiative.
Voilà. Pour information, c'est autour de 12 500 euros. Lionel, le dernier mot?
Oui, je voulais juste remercier donc les Big Boss et puis la société eSight pour m'avoir offert ces lunettes, et tout en sachant que un effort supplémentaire a été fait, vu que je suis papa d'un petit garçon de 7 ans aujourd'hui, ce petit enfant qui s'appelle Robin va pouvoir bénéficier également grâce à eSight et au Big Boss d'une deuxième paire de lunettes. Donc nous aurons deux paires de lunettes à la maison eSight et on pourra découvrir ensemble toutes les choses que l'on voyait pas.
Ils ont changé vos vies plutôt. Merci beaucoup, merci Lionel, merci Hervé Bloch.
Business Club de France, les entreprises françaises en mouvement sur BFM Business.
De retour sur les bords de la mer Égée pour ce Business Club de France un peu spécial. Nous avons fait un voyage pour venir à la rencontre des acteurs du e-commerce français réunis ici dans le cadre des Big Boss. Et quand on parle de voyage, qui de mieux que Geoffroy de Bec de Lièvre pour nous en parler? Bonjour Geoffroy.
Bonjour Michel.
Alors, vous avez fondé Marco et Vasco, agence de voyage sur mesure et plutôt haut de gamme, voyage en ligne, que vous avez donc fondé, revendu il y a un peu plus d'un an, je crois maintenant, au groupe Le Figaro. Vous êtes un big boss, pour reprendre l'expression. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher ici?
Alors, qu'est-ce que je suis venu chercher, Marco? Parce qu'on a beaucoup grossi. En 10 ans, on est passé de la feuille blanche. J'étais le premier salarié à 300 salariés. Et quand on devient une PME comme ça, de taille un peu conséquente, bah, finalement, on voit on est moins opérationnel et on perd un peu le lien avec le terrain, la réalité, les prestataires. Et donc, je reviens chercher une mise à niveau, rencontrer plein de prestats, m'ouvrir, être inspiré sur ce qu'on peut faire de différent, faire de mieux.
Parce que vous, c'est ce que vous avez fait pendant 10 ans finalement. Parce que pour avec toute la crise que peut connaître le tourisme, vous savez, c'est par vagues, vous le savez très bien, hein, que ce soit la météo, le volcan, le conflit, à chaque fois ça bouscule les codes. Et puis là-dessus, il y a aussi cette dose, je dirais, de technologie et d'émotion. Mais ça, on va en parler dans un instant. Mais ça veut dire quoi? Que vous êtes venu chercher éventuellement de nouvelles briques qui demain pourraient venir aider au développement de Marco et Vasco?
Ouais, clairement, je pense qu'une société, elle vit, une société, elle a besoin de se réinventer en permanence. Ouais. Nous, on a créé un nouveau modèle, on a réinventé une manière de vendre de voyages sur mesure, il y a 10 ans. Et puis, 10 ans, en fait, c'est long. Donc maintenant, je pense qu'on doit réinventer aussi une manière de contacter nos clients, de les inspirer, de venir à eux, de les comprendre. Et donc ça passe par le fait d'aller à des événements comme celui-ci, clairement.
Alors, j'aimerais qu'on aille un tout petit peu plus loin. Vous vous dites effectivement innover pour rester compétitif. Au final, pour vous, et encore peut-être plus que pour d'autres pure players, il y a un homme, une femme qui achète un voyage, qui achète de l'émotion. Donc il y a peut-être envie d'être réconforté par des aides humaines. Vous avez une équipe formidable là, qui conseille très très bien. Je me dis, pour vous, la technique, finalement, c'est pas le plus important.
Alors... 100% de nos clients nous trouvent quand même grâce au digital aujourd'hui. Donc la technique est quand même assez cruciale. Après, bien évidemment, on ne doit jamais l'oublier. Notre business, il sera jamais 100% techno. C'est pas possible. Parce qu'à la fin, c'est l'expérience du terrain. Est-ce que le guide a été sympathique sur place? Est-ce qu'il était souriant? Est-ce qu'il était ponctuel? Est-ce que les réservations étaient correctes? Est-ce qu'on a créé du bonheur chez nos clients? Et à la fin, vous pouvez mettre toute la techno que vous voulez. C'est le ressenti du client et c'est sur place comment ça va se passer. Ouais. Et voilà, sauf que la techno, elle permet au retour d'évaluer chaque partie du voyage avec le client, d'envoyer des questions de satisfaction, d'avoir ce qu'on appelle nous un NPS, un Net Promoting Score sur chacune des activités et donc de s'améliorer sans cesse. Mmh. Mais bien sûr, la techno ne peut pas tout faire. Heureusement.
Oui, c'est clair. Mais enfin, en même temps, effectivement, pour vous, ça marche plutôt pas mal. Mais ce qu'on appelle les taux de transformation, c'est-à-dire que lorsqu'un client vient sur votre plateforme, vous êtes capable de le rappeler très rapidement et d'avoir un véritable suivi. Demain, peut-être l'intelligence artificielle. Je ne sais pas si elle est encore au service du tourisme. On en parle partout aussi, hein, de cette fameuse intelligence artificielle. Est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous pensez pour peut-être Marco et Vasco? Et après, je vous pose une question peut-être un peu plus globale sur l'évolution, on va dire, du e-commerce dans ce pays. Déjà, moi, j'ai vu quelques solutions un peu nouvelles. On vous dit, l'intelligence artificielle deviendra encore plus intelligente dans quelques années. Mais il y a quand même des éléments qui posent question aujourd'hui.
Alors, je pense que dans beaucoup d'industries, clairement, l'intelligence artificielle va faciliter la tâche, va permettre de gagner en productivité ou peut-être de ne plus avoir à faire des tâches qui apportaient peu de valeur ajoutée pour certaines personnes. Sur de voyages vraiment sur mesure personnalisés, nous, quand on interroge un client, on s'intéresse à lui, à qui il est. On lui demande ce qu'il va évoquer la Chine ou le Vietnam, ce qu'il aime, est-ce qu'il a des allergies alimentaires, etc. Et c'est l'intégration de tout ça, plus finalement le vécu du conseiller, cet échange qui finalement va faire qu'on va aboutir sur un voyage qui est totalement personnalisé. J'ai du mal à voir comment une intelligence artificielle peut répondre à ça. Et puis honnêtement, la voix du robot, quand vous tombez déjà aujourd'hui sur des serveurs vocaux, des choses comme ça, donc voilà. Mais je pense que, en tout cas, sur notre segment de niche qui est vraiment du voyage ultra personnalisé et véritablement sur mesure, je pense qu'on a un petit peu de marge là-dessus, en tout cas sur la partie conseil, ça c'est certain.
Ça c'est sur votre segment. On va aller un petit peu plus loin, on se projette. Je sais qu'on a plusieurs fois parlé de ça ensemble sur l'évolution du e-commerce dans les nouveaux comportements que vous pouvez constater. Mais au-delà des nouveaux comportements, c'est peut-être les nouvelles technologies et au-delà, on en parlait à l'instant, de l'intelligence artificielle, de la voix. On pourra très bien dire, je veux aller en Chine, point barre, hein, une boîte. Comment est-ce que vous voyez un petit peu ces grandes tendances?
Moi, je pense que déjà, il y a une tendance avant l'intelligence artificielle qui aujourd'hui fait vraiment évoluer notre métier, c'est la data, vraiment l'utilisation de la donnée. Nous, on est capable de storer toute la donnée qui vient des différents canaux. Et aujourd'hui, on a créé une 60aine de scénarios. Et je vous donne un type d'exemple. On est capable, par exemple, de dire que quelqu'un qui a été en Inde, au Vietnam et en Chine a 70% de chances d'aller au Japon. dans son prochain voyage. Et là, on le vérifie par des scores. C'est quelqu'un qui a une appétence, qui a un goût pour l'Asie. On sait que ça fait partie des pays qu'on visite après en avoir déjà visité quelques-uns, etc. Donc aujourd'hui, oui, la data, nous, elle nous sert énormément et on va de plus en plus vers du prédictif. Mais c'est pas l'intelligence artificielle, c'est pas la même chose. Mais là, déjà, c'est énorme parce que être capable de contacter le client au bon moment, sur le bon canal, avec le bon message, ça, on peut le faire qu'avec la data. Après que cette data s'enrichit, après que le système s'enrichisse de cette data, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, c'est l'enrichissement du système par lui-même grâce à cette data. Je pense qu'aujourd'hui, le marché me paraît, en tout cas sur le travel, pas complètement mûr.
Mais ça veut dire que effectivement data, intelligence artificielle pour le prédictif, ça je trouve ça assez fascinant quand même, parce que là vous étudiez juste des comportements, ouais, hein, et à partir de là vous dites ah ben il y a de fortes chances qu'il aille là, et vous êtes à peu près dans le juste, vous me dites 70%, ce qui est quand même assez remarquable. Ça veut dire que demain vous pourrez aller non au-delà de la destination, dire je sais pas, bon, cette personne aime bien ce type de resto, aime bien plutôt des balades culturelles, plutôt des balades en mer, vous pourrez aller jusqu'à ce niveau-là.
Ah bah c'est l'objectif, parce qu'aujourd'hui oui, c'est clairement l'objectif. L'objectif, c'est de collecter de la data qui vient de plein, finalement, de canaux, de supports différents. Et si on est capable de savoir que cette personne est enregistrée ou a été sur un blog de golf avant ou de pêche et qu'il est passionné par ça, et que nous, on est capable d'avoir cette information, et que légalement, elle est exploitable, bien sûr, on peut commencer à pousser des offres de plus en plus personnalisées.
Si on se projette à 5-10 ans, ça va faire peur, là.
Non.
Marco Vasco va sonner à ma porte. Voilà ton voyage, tout est prêt.
Non, pour l'instant, on est capable, dans le prédictif, de répondre à des besoins sous-jacents des clients. Après, de créer leurs futurs besoins non exprimés, on n'y est pas encore. Mais ça viendra.
Dernière question, quelles sont les nouveautés aujourd'hui? Vous travaillez sur de nouveaux pays, il y a des tendances sur lesquelles vous allez sortir de nouvelles offres. C'est quoi l'actualité, Marco et Vasco?
L'actualité, alors on se rend compte, nous, c'est vraiment une montée en gamme et des services de plus en plus pointus et personnalisés. On se rend compte que notre typologie de client a vraiment besoin d'être accompagné, de voyager de manière sereine et de s'embêter sur rien du tout. Donc, on propose, j'en sais pas, de s'occuper du linge sale au retour des vacances si vraiment c'est un problème pour la personne. On propose des stages contre la peur en avion si c'est un souci, du gardiennage pendant le départ. On va proposer un maximum de services, y compris autour du voyage, pour simplifier la vie des voyageurs. Nous, c'est vraiment ça. On veut que les gens y partent en toute sérénité, en oubliant tout, on s'occupe de tout. Et il n'y a pas de limite dans le tout. Voilà, c'est ça.
On est en Grèce aujourd'hui, ici. Il y a des tendances pays que vous avez constaté, ou c'est à peu près toujours les mêmes pour les vacances là qui arrivent?
Ouais, alors là où les tendances jouent le plus, finalement, c'est ça a été beaucoup en Europe ou dans le bassin méditerranéen, malheureusement pour des raisons d'actualité et tous les attentats qu'il y a eu ces dernières années. Mais finalement, sur le long courrier, les tendances, les Français continuent à adorer les États-Unis. Ça reste, je pense, leur destination préférée en long courrier. Et puis en ce moment, ce qui marche bien, c'est la Tanzanie, notamment l'Afrique du Sud, marche pas mal. Dans les petites tendances un peu différentes.
Dernier point, votre entreprise a été créée en 2008, vous le disiez tout à l'heure. C'est pour le petit clin d'œil. Cette émission Business Club de France a démarré aussi en 2008. On fait partie des premiers invités qu'on a eu le plaisir d'accueillir. Nous, on risque de disparaître cet été. Vous avez plus de 300 salariés. Ça fait partie des beaux souvenirs que l'on peut avoir dans le Business Club. Je tenais à vous le dire. Et bravo encore pour tout ce que vous avez fait. Merci, Geoffroy.
Merci, c'était un plaisir plus que partagé à chaque fois de venir et d'échanger, donc merci.
On aura l'occasion de se revoir. On marque une pause, à tout de suite.